Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Lyon et commence en 2012. Olivier, c'est comme ça que le Parisien l'appelle, est étudiant dans une prestigieuse école de commerce. Réfugié politique depuis peu, il peine à régler ses frais de scolarité de 12 000 euros par an. En plus de ses brillantes études, il pratique le culturisme à haute dose et découvre les vertus des produits dopants. Il s'intéresse aux stéroïdes, aux anabolisants, mais aussi à des tas d'autres produits qui équilibrent les effets désirables ou indésirables des précédents et sont fabriqués clandestinement en Inde pour la plupart. Olivier prend 15 kilos en un an. En bon spectateur de Breaking Bad, il a alors l'idée de se lancer dans la chimie depuis sa petite chambre d'étudiant. Il fait venir les substances de base de Slovaquie, de Chine, apprend sur le net comment on fabrique pilules et gélules et s'équipe. Il s'associe à un copain geek et crée un site internet qui vend des t-shirts. En réalité, chaque couleur de t-shirt correspond à un produit dopant. Le bruit se répand parmi les culturistes, haltérophiles, bodybuilders et autres militaires en mal de gros muscles qu'un site casse les prix. Chaque cachet est vendu entre 30 et 60 euros. En deux ans, Olivier réussit à gagner 20 000 euros qui servent uniquement à financer ses études. C'est du moins ce qu'il expliquera lors de son procès. Un paquet suspect lui étant destiné a fini par être intercepté à Orly. Mais Olivier se défend d'avoir mis en danger la vie d'autrui car il testait lui-même les produits avant de les vendre. Il précise que les effets secondaires qu'il a supportés, comme des fièvres, des palpitations ou des montées de lait, n'allaient jamais jusqu'à l'infection. Pas vraiment rassuré par cet argument, le tribunal l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis et 5 160 euros d'amende douanière. Tout de suite dans les pieds sur terre, pourquoi les sportifs se dopent-ils? Comment en viennent-ils là? Ce qui se passe? Ce sont deux histoires racontées par Clément Baudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Marion, j'ai 31 ans et je suis aide-soignante. Donc j'ai mes parents qui m'ont inscrit à la gym à l'âge de 6 ans. Donc en fait, ça m'a tout de suite plu et en fait, j'étais dans un club, Ufolep, dans le 91 à l'époque. Et j'adorais la barre asymétrique. Tout ce qui est pirouette, salto arrière, j'adore la gym en fait, c'est comme ça, c'est la souplesse, la force, le physique, le mental, voilà, c'est mon sport, c'est ma passion. J'en faisais 6 heures par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc j'ai fait ça de 6 ans à 26 ans. J'ai fait les championnats de France, j'ai été à première au département, au régional, au demi-finale et après championnat de France, j'y ai participé, je suis jamais arrivée première, mais j'ai été arrivée 14e sur une centaine. Après, j'ai commencé à vouloir penser à avoir un premier enfant. Donc je me suis dit que j'allais peut-être me calmer parce que moi quand à la gym c'est j'y vais à fond, c'est du tout ou rien et ça devenait un peu dangereux pour moi à la fin et je me suis dit qu'avec un enfant il était temps que j'arrête et que je me pose et que je finisse par trouver peut-être bien une salle de muscu pour tout simplement m'entretenir. Et en fait quand je suis arrivée à la salle, bon déjà c'était inconnu pour moi, hein, ce milieu-là je connaissais pas du tout, hein. C'était vraiment une découverte et en fait quand je suis arrivée dans la salle, les athlètes au fur et à mesure des jours, je voyais bien qu'on me regardait et ils sont venus vers moi pour me dire « écoute, t'as un physique à pouvoir faire de la compétition dans le culturisme ». J'ai fait pourquoi pas essayer, mais par contre je leur ai dit par contre il va falloir me dire vraiment ce qu'il faut faire physiquement parce que je ne sais pas, je connais pas, et aussi au niveau de la diète parce que je pense qu'il faut aussi un régime et c'est pareil, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Comme une écolière, je me suis laissée guider. J'ai vraiment, on m'a dit tiens viens on va sur cet appareil. Là je vois que ce muscle là il manque de volume, donc on va le travailler comme ça. Alors aujourd'hui on va travailler les épaules, on va les laisser se reposer demain, on travaillera les jambes par la suite, petit à petit et tout ça va faire que avec les entraînements stricts et suivis, le corps va se modifier, se modeler. Donc en fait, je dirais en 6 mois, j'ai réussi à avoir un corps comme il fallait pour faire une compète. Et en fait, j'aurais jamais imaginé pouvoir transformer mon corps comme ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des muscles comme ça dans mon corps. Je les ai découverts vraiment à la salle de muscu. Et c'est là que j'ai connu mon corps, c'est à la salle de muscu, avec toute cette transformation. Donc j'ai la peau fine, j'ai la peau en fait sur le muscle et tout est dessiné, c'est comme un art. C'est le muscle, il est à la fois volumineux mais pas trop, ça reste féminin. Avec de beaux abdos, pas de gras, c'est galbé, c'est joli à regarder. Et encore plus quand on met des talons, ça galbe davantage. C'est une ligne féminine avec du caractère, ça a du chien, voilà. C'est quand on se voit changer, qu'on voit notre corps se modifier, qu'on devient amoureuse de soi-même et que ça change toute la vie. Franchement, et ça donne encore plus envie de continuer. On se regarde et on se dit, c'est trop beau. Il m'a fallu juste un an seulement de préparation avant de commencer mes premières compétitions. Et j'étais presque plus à la salle que chez ma famille. Je dirais bien 4 à 5 heures par jour. Donc moi, dans ma catégorie en fitness, il fallait que ça soit harmonieux tant que pour les épaules, que pour les cuisses. Il fallait pas que les cuisses soient plus grosses que le haut. Il faut que le muscle soit tracé, donc sec. Et le fait que ça soit sec, pour ça, il faut qu'on ait le moins possible d'eau dans le corps le jour de la compétition, pour que bien que tout ça ressorte correctement. Et bah, tout ça, on le travaille avec beaucoup de cardio pour éliminer tout ce qui est eau, graisse et beaucoup de muscu en niveau poids pour prendre en volume et pouvoir sculpter le muscle. Et après, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est complément alimentaire. Donc je prenais mes protéines donc le matin au petit déjeuner, avant et après le sport. Et quand je travaillais le matin, à ma pause de 10 heures, j'avais encore ma dose de protéines. Et si j'étais d'après-midi à ma pause de 16 heures, j'avais encore ma dose de protéines. Protéines en poudre, donc c'est sous forme de pot avec du lait écrémé ou on peut prendre du lait de soja. Et puis après, c'était du poulet normal qu'on achète dans le commerce. Donc je faisais cuire mes 2 poulets par jour dans le four. On les dépiote jusqu'à 1h du matin, hein, parce que ça prend du temps. Et évidemment, on est parfois jugé sur « Tiens, pourquoi tu manges ça? C'est ridicule. » Donc bon, mes parents, ils disaient rien. Hein. Bon, je m'entretenais, c'est bien. Sauf qu'au moment où j'ai dit que j'allais faire des compétitions et que je montrais les photos de comment devenait mon corps, quand je soulevais mon maillot, quand j'étais en réunion de famille, « Regardez, j'ai mes abdos, comment ils ressortent ?» ma mère a eu plus de mal. Elle a eu peur de ce milieu-là. Elle connaît pas et du coup, elle aime pas trop ça, alors que mon père, lui, il avait plus tendance à m'encourager, il était fier, voilà. Puis ma mère, elle aimait pas ça du tout, donc elle avait peur pour ma santé, mais bon, j'étais suivie par mon médecin, avec des prises de sang régulières, qui me disaient que tout allait bien. Après, mon mari, lui, m'a suivie en compétition, il m'a filmée, il était fier de moi. Donc après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il me disait, ça devient un petit peu trop, les muscles. Il faudrait peut-être que tu stoppes un petit peu parce que j'ai pas envie d'avoir un bonhomme au lit, quoi. Donc voilà. Donc j'ai eu l'occasion, vu que je suis arrivée première au championnat de France, d'avoir la possibilité d'aller au championnat du monde en Espagne. Donc je suis arrivée 6e. Et à Univers, catégorie fitness, je suis arrivée 3e. Donc super fière. Voilà. Donc j'ai été au mois de mars à une compétition basique. Et donc en fait, on est arrivé là-bas, super, bonne ambiance. On regarde la scène quand on arrive, hein, on prend ses marques. Donc je suis montée une première fois sur scène pour faire ma chorégraphie d'une minute avec mon jugement physique et tout. Et je suis redescendue et puis j'ai pas trop compris. J'ai été interpellée pour un dépistage contre le dopage. Donc en fait, ça m'a un peu bouleversée parce que je devais passer, en fait, dans 15 minutes, je devais remonter sur scène. Donc je me suis retrouvée à être dirigée dans une pièce. On m'a posé des questions pour remplir un questionnaire. Si je prenais des médicaments régulièrement, au quotidien, non, moi je prends rien. Du coup, elle m'a demandé de me diriger vers les toilettes. On y a été ensemble. C'était une obligation qu'elle venait avec moi. Donc, par contre, je lui ai dit que moi, ça me stressait un peu parce que je devais quand même passer. Mais elle m'a fait, vous inquiétez pas, ça va aller, on va y aller, on va se dépêcher. Alors, elle a pris ses deux bocaux, on s'est dirigé vers les toilettes. Et là, c'est un peu une humiliation quand même parce que tout le monde vous regarde. C'est comme si vous aviez fait un crime. Limite, elle vous le tient le bras pour pas partir. Elle rentre dans les toilettes avec vous. Et là, je suis censée faire quoi? Bah, vous faites pipi. Mais vous me regardez là? Oui, il faut que je vous regarde. Ah, et en fait, je me suis retrouvée dans les toilettes avec cette infirmière qui était la tête baissée en train de me regarder faire pipi dans le bocal pour voir si on met pas quelque chose dans le bocal pour dissoudre je ne sais quelle peut-être substance possible. Donc, j'ai fait pipi. J'ai ressenti une grande humiliation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis c'est déconcertant parce que on est censé s'amuser dans une compétition et puis tout devient tout d'un coup sérieux et complètement dramatique. Donc après on est retourné dans la salle pour finir de clôturer les bocaux parce qu'elle le fait devant moi. Elle me dit bien voilà, donc je ferme, voilà, maintenant vous signez comme quoi vous avez bien fait pipi dedans, vous signez comme quoi vous êtes d'accord de faire le dépistage. Donc j'ai signé parce que de toute façon j'avais rien à cacher, hein, mais c'était dur quand même parce que je l'avais jamais vécu, je suis amatrice et je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Donc je me suis retrouvée à être enfin libérée, j'avais plus du tout la tête dans la compétition parce que ça a duré quand même un bon 15 minutes. Je suis remontée sur scène, j'ai continué ma compétition et tout s'est super bien passé parce qu'en plus j'ai excellents résultats et vu que je suis arrivée première en catégorie fitness, je me suis retrouvée à gagner 1000 euros. Un an après, en fait, jour pour jour, j'ai reçu un courrier de l'AFLD, donc Agence française de lutte contre le dopage, me disant qu'ils avaient retrouvé une molécule du furosémide. Alors, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Je disais, mince, ils m'ont retrouvé du furosémide dans mes urines. J'ai donc été voir sur le net pour me renseigner et comprendre ce que c'était. C'est là que j'ai compris. C'était du Lasilix. J'avais loupé mon régime et on m'a conseillé de prendre ce Lasilix pour en fait enlever les œdèmes que je m'étais créé au niveau des mollets parce que j'avais loupé mon régime sans sel. Et en fait, le Lasilix permettait d'enlever l'eau et de soulager mes mollets. Et j'ai été étonnée parce que je comprenais pas en quoi c'était dopant. Donc j'en ai parlé à mon médecin et mon médecin m'a dit « Oui, c'est dopant, c'est aussi un agent masquant de stéroïdes. » D'où le fait qu'il soit dans la liste des composants dopants. Et moi, je le savais pas. Donc malheureusement, j'ai toujours été fière du parcours que j'ai fait naturellement avec mes 22 heures par semaine, l'acharnement que j'y mettais. Et d'en arriver à là alors que j'ai jamais rien pris, c'est vrai que ça m'a beaucoup déçue. Donc suite à ce résultat-là, j'ai dû écrire où c'est que j'aurais pu me procurer ce produit, comment je l'avais pris et pourquoi. Donc j'ai dû me justifier par écrit, j'ai dû envoyer ça sur Paris. Et encore un an après, on m'a demandé de comparaître sur Paris devant à peu près une quinzaine de personnes pour cette fois-ci me justifier oralement. J'y suis allée en voiture, un ami m'a accompagnée parce que j'étais incapable de conduire. Je me suis retrouvée donc dans une grande salle avec plein de tables collées les unes contre les autres, avec tout le monde qui vous regarde, et une petite table au milieu, libre, pour vous. Donc on vous demande gentiment d'aller vous asseoir. On m'a posé plusieurs questions, donc à savoir pourquoi avez-vous pris ça, si je faisais des compétitions depuis longtemps, si je comptais continuer la compétition. C'était stressant, je me suis mise même à pleurer parce que je comprenais pas pourquoi on s'acharnait sur moi comme ça alors que je leur ai expliqué que du coup un athlète m'a gentiment donné ce médicament pour m'aider à enlever cette eau et me soulager au niveau des douleurs, mais ça faut arriver à le justifier. Et du coup, je me suis retrouvée à rentrer chez moi, à stresser parce qu'on m'a dit que les résultats ça serait que dans 5 semaines. Donc pendant 5 semaines, on rumine, on se dit, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que dans les papiers qu'on reçoit, c'est écrit tout ce qui est possible d'avoir, c'est-à-dire une amende, de la prison, on vous fait bien avoir peur. Donc forcément, les questions se posent parce qu'on vous dit rien d'autre. Donc j'ai reçu un courrier 5 semaines après me disant qu'en fait, j'étais interdite de pratiquer des compétitions pendant 2 ans. Voilà. Donc je le vis mal forcément, hein. On a une sanction qu'on ne mérite pas, hein. Donc actuellement, j'ai arrêté les compétitions. Donc maintenant, je m'entraîne vraiment pour moi. Je me fais plaisir. Donc je m'arrête là et c'est très bien. J'ai fait mon univers et j'ai fait ce que j'avais à faire.
France Culture, les pieds sur terre.
Moi, c'est Fabien, j'ai 29 ans, je suis père de 2 enfants, 2 petites filles, et j'habite sur la ville de Caen. Je suis dans une famille où il n'y a que des cyclistes. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde faisait du vélo. Après, moi, mes parents, ils ont divorcé, j'avais même pas 2 ans. Mais je savais que mon père faisait du vélo, je suis jamais allé le voir courir. Mais quand on grandit, son papa, c'est un peu un exemple, même si on grandit pas avec. Et du coup, moi, j'avais envie de faire comme lui, je savais qu'il gagnait des courses, et c'est comme ça. Puis j'ai toujours voulu faire du vélo, mais un vélo, ça coûte un petit peu de sous. Et ma mère, elle avait pas forcément les sous pour choisir du vélo. Un jour, il y a un vélo qui s'est présenté devant moi, on m'a proposé, pas cher, j'avais le temps pour le payer, je l'ai pris et j'ai essayé. J'allais sur mes 14 ou 15 ans, ouais. Alors, le premier entraînement, je suis parti, il y avait mon papa, mon oncle, et on n'a pas fait 300, 400 mètres que déjà j'étais tombé. Je suis tombé sur mon père en plus. Et après, on est parti et j'ai tout de suite compris que je serais pas trop mauvais, parce que j'ai réussi à suivre mon père dans quelques bosses, même si je pense qu'il était pas à fond. Et après, quand je l'ai entendu avoir une conversation téléphonique avec un oncle qui disait si, je pense qu'il sera bon, mais il savait pas que j'entendais. Et moi, ça m'a motivé, là. On se rend pas compte, mais c'est vachement dur quand on a 14-15 ans de rentrer dans un peloton où il y a 100-120 coureurs. Les cyclistes, ils sont collés, ils n'ont pas 20-30 cm d'écart. Et déjà, les premières courses, on se fait lâcher parce qu'on a peur. Donc déjà, il y a cette motivation de dire, attends, tous les autres gamins, on fait la même taille, on a le même âge, ils ont rien de plus que moi, ils n'ont pas peur. Donc déjà, moi, j'avais ce truc-là de dire, il faut que j'arrive à m'accrocher là-dedans. Puis j'ai vite été le meilleur à l'entraînement du club, donc moi ça m'a donné envie. Et la première course, j'ai dû finir à au moins 5 minutes du vainqueur, parce que je me suis pas fait lâcher dans la montée, mais dans la descente, parce que justement j'avais eu cette peur. Et une fois que je suis rentré chez moi, j'ai analysé, je me suis dit attends, c'est pas normal, je peux pas finir tout le temps loin parce que j'ai peur de tomber. Ou je pense que ça va faire partie du jeu. Et la course d'après, je terminais 10e, 11e, je pense devait être 120, 130. C'était l'année de mes 15 ans. Puis moi, je me disais, vite, il faut vite que j'apprenne, parce que je veux vite jouer les premiers rôles devant, je veux vite gagner, dire que je suis meilleur que mon père. C'était ça aussi le truc. Et je me comparais à mon père quand il avait le même âge. Alors lui, c'était un très bon cycliste amateur. Actuellement, il est champion de France master dans la catégorie 50-55 ans. C'est le numéro 1 en France. Alors l'année de mes 16 ans, c'est un peu la découverte. Mais malgré tout, je termine 2e du championnat de Normandie, 2e du championnat de Calvados, ce qui était déjà des bonnes choses. Et l'année d'après, donc j'ai grandi. Et la première course, j'ai gagné avec 5 ou 6 minutes d'avance sur le 2e. C'était la première course de l'année. Donc déjà, tout le monde s'est dit, il sort d'où lui l'année dernière, il a gagné qu'une seule course. L'hiver d'après, il n'y a pas de course pendant 6 mois. Je me suis entraîné comme il faut. Première course, c'est la course du club, je gagne. C'était une 2e catégorie. Mais on me dit, mon oncle, il vient à l'arrivée, il me dit, t'inquiète pas, la semaine prochaine, ce sera beaucoup plus dur. C'est une course de 1ère catégorie, c'est avec tous les amateurs. Je dis, ok. Bon, je m'entraîne la semaine, j'arrive à cette course-là, je la gagne. Il dit, là, la semaine d'après, c'est encore plus dur, c'est une course nationale junior, c'est tous les juniors de France qui sont là. Je termine meilleur grimpeur, meilleur sprinter, meilleur animateur et je gagne la course. Bon, il dit, la semaine prochaine, on va faire une course, c'est une internationale. Il y aura des Belges, des Hollandais, il y aura tout ça. J'ai gagné une course internationale, je pars en équipe de France, je m'entraîne à Bourges pendant une semaine, et là je passe sur une Coupe du Monde. Là, je suis passé en 6 courses, d'une petite course régionale à la plus grande course des juniors au monde, Paris-Roubaix. Bah, cette course-là, c'est pas compliqué, j'ai gagné aussi. Tous les lundis, j'allais acheter l'Ouest France, et il y avait une page entière sur moi dans l'Ouest, et toutes les semaines, c'était des plus grands articles à chaque fois. Et c'est là que ça a vraiment commencé, on se dit, j'ai fait quelque chose que personne n'avait fait avant à cet âge-là. Et là, même si j'avais 17 ans et demi, personne ne me faisait peur. Pour moi, j'étais le meilleur. Il fallait que j'impressionne. Au-delà de gagner, parce que gagner, je savais que j'allais le faire, il fallait vraiment que je montre que j'étais un tueur. Il fallait que je tue la compétition. Ma mère était fière, mes grands-parents. Tout le monde s'est déplacé, mon petit frère, mes tantes, ma grand-mère, mon grand-père, on louait des fois des véhicules de 9 personnes pour se déplacer tous ensemble. C'était vraiment un truc de famille. Tout le monde travaille la semaine et le week-end, le samedi, c'est tout le monde va à la course. Faut savoir que nous, on est 7 garçons, je suis le plus grand de tout ça, j'ai 6 petits frères. Donc les 6 petits frères, ils regardent avec des grands yeux. Moi, j'avais l'impression d'être un peu la star. Tout le monde était impressionné, tout le monde me félicite. Quand je vais sur une course, même s'ils pensent qu'ils m'ont pas vu, moi j'entends, ça chuchote. Ils disent, oh, c'était hyper. Là, tout le monde sait que je suis là, je voulais pas venir. Et quand t'as 17 ans, t'en joues. Tu fais celui qui a pas vu, mais tu sais très bien que tout le monde te regarde. Alors, 2 ans après, j'ai signé mon contrat professionnel. Il y avait la pression, de l'argent, les sponsors, les entraîneurs, même le monde pro qui t'attend. Et j'avais pris du poids. J'avais vachement grossi parce que j'avais fait la fête, tous les verres à fêter mes titres, tout ça. Le problème, c'est que des fois, j'étais feignant à l'entraînement. C'est pas possible. Moi, des fois, j'allais pas m'entraîner juste pour prendre ma voiture, pour faire 3 heures de route, pour aller voir ma copine, alors que j'avais un contrat professionnel. C'est comme un employeur, sauf que je me rendais pas compte. Quand tu travailles, t'as 19 ou 20 ans, tu travailles dans un restaurant, bah, tu vas faire tes heures de boulot, bah, j'aurais dû les faire, c'est pareil. Et le dopage, c'est arrivé parce que j'avais des amis qui, eux, se dopaient. Puis un jour, je suis parti voir l'un de mes amis, j'ai dit, moi, je veux perdre du poids. Et il m'a donné un produit et ça s'est fait comme ça. C'était des corticoïdes, Kenacort. C'était une petite boîte en carton. Il y avait une petite seringue avec un produit, ça fait 1 millilitre, c'est tout petit. C'est à se piquer dans la fesse et c'est un petit produit blanc qu'il faut secouer. Voilà, c'est... Alors pendant 6-7 jours sur vélo, j'ai pas été bien du tout. Et j'avais du mal à finir mes entraînements, j'avais l'impression d'être gonflé, d'avoir mal à la tête, d'être énervé surtout. Puis au bout de 7-8 jours, bah, je me suis mis à fondre, j'ai perdu 2 bons kilos et je pense que c'est ça qui a amélioré ma condition après. Moi, c'était pas vraiment me doper que je voulais perdre du poids. C'est pour moi, c'était pas pareil. Je voulais pas que le dopage me fasse gagner les courses. Pour moi, je voulais perdre du poids et être meilleur. Je voulais avoir des veines sur les jambes, avoir plus de style. C'était ça. À 19 ans, on n'est pas encore formé. Moi, je courais avec des mecs, ils avaient la trentaine. Donc, ils ont plus les joues d'enfants, ils ont des veines partout. Ils ont la classe, comme on dit. Et moi, c'est ça que je voulais. Je voulais avoir aussi les veines, je voulais être sec. Et c'était ça le truc. Ensuite, je me suis fait opérer 2 fois. Une tumeur bénigne à la cuisse, je suis resté 4 mois sans faire de sport et là ça pardonne pas. Avec le gros retard que j'avais, bah, c'est là que j'ai décidé de passer au dopage vraiment pour être meilleur. J'avais pris du diprostène et c'était ce qu'on appelle du microdose et c'est vraiment tu prends ça la veille ou l'avant-veille pour être meilleur le jour J. Et ça retarde la fatigue, donc ça donne un petit peu plus de force et d'euphorie aussi.
Et comment vous vous procuriez ça?
Bah, des corticoïdes, il y en a partout, hein, chez les grands-mères, chez n'importe qui. Il suffit d'aller voir son médecin, de dire j'ai une allergie. Même on demandait au médecin de faire une ordonnance pour une maladie que j'avais pas et je prenais ce produit-là. Tu le piques dans la fesse et voilà, ça part dans tout le corps après. Ça s'est fait comme ça et une fois que tu rentres dedans, eh ben tu te mens, tu dis tout le monde le fait, de toute façon ça fait partie du truc, il faut le faire. C'est ça. Et ensuite, donc 2-3 mois après ça, il y a eu le PO. Et là, c'est pareil, c'était une seringue que tu piques en sous-cutané sur le ventre. C'est vraiment une toute petite seringue. Ça m'a rien fait pendant 3-4 semaines. Puis au bout de 3-4 semaines, j'ai senti que je respirais mieux sur le vélo, j'amenais plus d'oxygène à mon corps. Et du coup, j'étais beaucoup plus endurant. Je voulais pas juste être un gagnant, je voulais tout arracher, c'est ça. Mois plus tard, mon téléphone sonne, il est 7h du matin, je décroche, c'est mon petit frère et je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il me dit il y a les flics partout à la maison. J'ai su qu'il venait fouiller chez mon père pour trouver des produits de page. Donc mon père était en garde à vue avec plusieurs de mes amis et ils vont faire 48 heures de garde à vue, ils vont ressortir plus tard et là je saurai que tout le monde a été mis sur écoute pendant 18 mois et qu'il y a eu une enquête sur nous. Moi, j'avais pas de produit de pan chez moi. Là. C'était au mois de décembre. Il n'y a pas de compétition. Les compétitions sont finies depuis 2 mois. Donc, de toute façon, j'ai pas paniqué parce que je m'étais pas dopé depuis peut-être 4-5 mois. Alors, mon père est parti en garde à vue parce qu'à ce moment-là, il se dopait aussi. Et puis parce que il y avait beaucoup de coureurs à Caen qui se dopaient. Et l'enquête a commencé sur une dénonciation anonyme sur un coureur. Et mon père était en contact avec ce coureur-là. Et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été arrêtés et qui n'avaient rien à voir. Donc mon père, même s'il n'avait rien fait, il aurait été arrêté quand même de toute façon. Moi, je pensais que dans les jours qui allaient suivre, j'allais être convoqué. Mais je me suis dit, tant que je ne suis pas convoqué, je continue à m'entraîner. Et les jours ont passé comme ça. Mais tous les jours, je me suis dit, ils vont venir. Donc, du coup, pendant les 3 mois qu'on suivit, moi j'ai continué à faire du vélo sans pouvoir me doper. À ce moment-là, je m'entraînais, j'avais une très bonne hygiène de vie et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment dépassé les limites. Puis, un matin, 6h du matin, mardi, ils viennent chez moi, c'était l'autre la Epsi. Ça tape à ma porte. Et il y avait l'un de mes petits frères à ce moment-là qui était chez moi, c'est pas celui qui a ouvert la porte. Ils ont dit Monsieur Taillefer. Donc lui, c'est pas Taillefer. Il a répondu oui. Vous êtes placé en garde à vue. Tout ça. Il s'est mis à pleurer. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Je dis non, c'est pas lui, c'est moi que vous cherchez. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc ils ont tout fouillé chez moi, il y avait des vitamines, mais des vitamines qu'on prend en part cachée, comme la vitamine C, n'importe qui peut. Ils essaient de me faire croire que ça c'était du dopage. Ils sont partis voir mon vélo, dans mon vélo il y avait un bidon avec du sirop à la menthe. Ils ont senti le sirop à la menthe, ah oh, ça c'est quelque chose, on va le faire analyser. Je me disais, mais j'avais l'impression d'être dans un film. Ils m'arrêtent, je fais 48 heures de garde à vue. Quand je sors de là, je parle à la presse et moi je dis tout. Parce que pour moi la boucle elle était finie. Arrive les premières courses de l'année, je suis au top. J'avais atteint le niveau que je voulais, j'avais repris confiance en moi, je savais que j'étais un très bon coureur et que j'avais pas besoin de ça. Maintenant, je me rendais pas compte qu'en faisant mes aveux, bah, je mettais fin à ma carrière. Parce que pour moi, je m'étais dit, je fais mes aveux, je parle de tout ça, je suis libre, on arrête de me regarder de travers, on arrête de se poser des questions sur TFR, tout le monde saura, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est moi. Et moi, je sais que j'ai confiance en moi et je vais reprendre ma place chez les pros. Bah, j'ai fait mes aveux à la presse, j'ai reçu un courrier chez moi, un recommandé. Comme quoi la fédération me suspendait à titre provisoire, quoi, et qu'il fallait que je passe devant la commission. Et j'ai pas été suspendu pour dopage, jamais. J'étais suspendu pour avoir nui à l'image de la fédération. C'est-à-dire j'étais suspendu pour avoir dit la vérité dans la presse. C'est la chose la plus marrante de ma carrière. Personne n'a été suspendu. Il y a eu des gens chez qui il y a eu de l'EPO de retrouver. Ils ont jamais été suspendus, jamais. C'est-à-dire que si j'avais rien dit, ben alors, actuellement je serais encore chez les professionnels, c'est sûr. J'ai été suspendu 15 mois et là j'ai tout lâché. J'ai arrêté de m'entraîner et je pense que ma carrière aurait été différente si on m'avait laissé parce qu'au final j'étais dans une bonne forme. Et un an et demi après j'ai eu ma première fille et ça a tout changé. Je pensais plus au vélo, c'était ma fille. Et après voilà, faut aller travailler, faut gagner sa vie. Là je suis auto-entrepreneur dans la vente à domicile et des fruits et légumes. Je suis passé à autre chose. On a été jugé en juillet 2017. Et en final, je vais prendre 3 mois de prison avec sursis. Et je m'attendais à peu près à ça. Je ne suis pas surpris. Je suis passé à côté de ma carrière. Et j'aurais pu vivre des choses extraordinaires, je pense. J'ai tout gâché.
Le corps dopé, c'était un reportage de Clément Baudet réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Marion, à Fabien, à Sarah, à Maïri, à Dorian, Martinez, à Barthélémy, à Benoît, à Valentine et à Julie. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et Camille Richir, c'est notre stagiaire.